Donc bonsoir, donc, je suis Nicolas Héringer de 350.org. 350.org qui est un mouvement global sur le climat qui mène des campagnes d'action qui ciblent principalement l'industrie fossile comme étant le principal obstacle, en tout cas à la mise en œuvre, l'un des obstacles les plus puissants à la mise en œuvre de politiques climatiques ambitieuses. Et 350.org qui s'est implanté en France à partir de fin 2014, quoi, en prévision de la COP21 et qui travaille en étroite collaboration avec Alternatiba, avec ATTAC, ANV COP21, les Amis de la Terre et tout un tas d'autres organisations. Et peut-être que plutôt que de vous présenter de manière un peu rébarbative les campagnes et les revendications qu'on porte, l'idée c'était peut-être de dresser un petit panorama de où on en est sur le front du climat à ce jour, et puis de voir justement comment, face à ce constat, quelle stratégie essayer un peu de déployer et développer, des stratégies qui sont déjà largement à l'œuvre par ailleurs, par tout un tas d'organisations. Donc vous vous souvenez peut-être un peu de l'état d'esprit qu'il y avait en décembre 2015, à l'issue de la COP21. Du côté institutionnel étatique, c'était clairement l'euphorie. Au moment où Laurent Fabius tapait sur son marteau là, pour marquer le fait que l'accord de Paris avait été adopté, tout le monde célébrait quasi unanimement quelque chose qui était une révolution. C'était les mots de François Hollande. Et François Hollande ajoutait que c'était probablement la plus importante et la plus belle de toutes les révolutions. Ce qui en dit long par ailleurs sur son abandon de la question sociale et d'autres types de révolutions, mais ce qui, on était dans l'emphase, dans l'idée qu'une page importante de l'histoire mondiale était en train de s'écrire. Et du côté du mouvement pour la justice climatique, on était évidemment critique par rapport à ce discours, puisque au moment où Fabius frappait du poing sur sa table, on était plusieurs dizaines de milliers qui étaient présents et présentes à braver l'état d'urgence pour déployer une gigantesque ligne rouge à vue de la Grande Armée, signifiant un peu ses limites à ne pas franchir pour maintenir des conditions d'un futur juste et durable, avant de se rassembler là aussi à 10-15 milliers de personnes au Champ de Mars pour déclarer l'état d'urgence climatique. Et même si on dénonçait un peu la poudre aux yeux de l'accord de Paris, on était aussi dans une phase plutôt euphorique en termes de vision de ce que le mouvement pour la justice climatique était en train d'accomplir et de ce qu'il s'apprêtait à accomplir dans les années à venir. Et on peut dire, disons, que depuis 2 ans et demi, la situation a un peu changé, pas tant pour le meilleur que pour le pire. Du côté institutionnel, enfin, disons que l'accord de Paris, quelle que soit l'appréciation qu'on en a, marquait en tout cas une évolution importante. C'était cette mention des 1,5 degrés comme étant l'objectif à atteindre et des 2 degrés comme étant non pas un objectif plafond mais un objectif plancher, donc cette idée de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà, c'est l'appellation officielle des 2 degrés, et tendre vers les 1,5 degrés. Au moins ça donnait une perspective forte et ça même ouvrait la possibilité, on était un certain nombre à commencer à dire que dès lors que l'accord de Paris serait transcrit dans le droit, on pourrait du coup faire valoir une question d'état de nécessité pour toute action de désobéissance civile, parce qu'on pourrait dire qu'on le fait au nom du respect de l'accord de Paris et de cet objectif des 1,5 degrés qui est ratifié par tous les États sauf les États-Unis, puisque je crois que maintenant même la Syrie l'a ratifié. Depuis, du coup, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts et au moins 3 épreuves auxquelles fait face cet accord. La première épreuve, c'est celle qui est incarnée à merveille par Donald Trump, c'est celle de la négation pure et simple de l'intérêt de l'accord de Paris et de la négation pure et simple de la réalité du réchauffement climatique. On pensait que les climato-sceptiques avaient largement perdu en influence, ce qui est totalement vrai en Europe et en particulier en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, au moment du sommet de Copenhague, c'était le moment où Claude Allègre courait les plateaux télé pour promouvoir un livre qui était fait de contre-vérité. Il a perdu tous les procès qu'il a intentés pour diffamation, notamment d'ailleurs à des porte-paroles d'attaque à l'époque, qui pointaient du doigt la falsification des données qu'il y avait dans ses bouquins. Mais en fait, du côté de l'industrie fossile, il y a tout un tas d'acteurs et d'actrices qui continuaient à parier sur la négation de la réalité du réchauffement climatique. Et quoi de mieux finalement que sponsoriser, financer et faire élire un climato-sceptique à la tête de plus grande puissance et du plus gros pollueur historique. Donc Trump représente cette négation et le jour où il a été élu, alors c'est un peu ironique, mais c'était en pleine COP 22 à Marrakech. Et il y avait une espèce de sidération, mais aussitôt de déni. L'idée était de dire, mais au fond, l'élection de Trump n'est pas aussi importante parce que la main invisible du marché est devenue verte. Et donc, les choses vont rentrer dans l'ordre par une espèce de force d'entraînement des marchés qui se sont convertis à l'économie verte, au capitalisme vert, etc. Et qu'il ne fallait donc pas trop s'inquiéter de cette élection. Ce qui est évidemment plus que largement de la poudre aux yeux, puisque on voit d'une part que Trump relance de nombreux projets, y compris charbonniers, mais surtout pétroliers. Il revient sur les quelques maigres victoires qui avaient été obtenues aux États-Unis sous Obama. Mais derrière, ça redonne un peu le vent, ça remet au goût du jour l'industrie fossile, mais en tout cas, ça laisse augurer le fait que la page n'est pas complètement tournée et qu'elle a encore un avenir. Donc on perd de précieuses années là-dessus. La deuxième épreuve, c'est finalement celle que Macron incarne à merveille, c'est celle de la banalisation de l'action pour le climat. Donc Macron, en juin dernier, quand Trump fait ce fameux discours dans la roseraie de la Maison Blanche expliquant qu'il allait sortir de l'accord de Paris, enfin qu'il allait ne pas ratifier cet accord qu'il jugeait... il a dit, le justifiant en disant qu'il n'avait pas été élu pour défendre les intérêts des habitants et des habitantes de la ville de Paris, mais pour défendre les intérêts de celles et ceux qui vivent à Pittsburgh, Pittsburgh étant la ville charbonnière aux États-Unis par excellence. Macron a réagi aussitôt en faisant un tweet en anglais, qui est le tweet rédigé par un francophone qui a été le plus retweeté de toute l'histoire de Twitter. C'est complètement anecdotique, mais c'est bien à ce niveau-là qu'on se situe, c'est une opération de com. C'était le fameux « Make the planet great again », qui singeait Trump. Donc en fait, ce qu'a fait Macron, c'est qu'il a trollé Trump. Plutôt qu'il a contre-trollé Trump, il s'est dit « Trump troll le monde entier en sortant de l'accord de Paris ». Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tweet pour le contre-troller. Et puis, à ce moment-là, évidemment, une fois que le tweet est retweeté, que tout le monde en parle, etc., bon, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et il y a cette opération, donc ce site web, du coup, le tweet s'est transformé en site web, Make the Planet Great Again, qui est un site sur lequel des climatologues du monde entier, mais en particulier des États-Unis, peuvent postuler pour être hébergés dans des universités françaises. En fait, on prend une partie du budget du CNRS pour l'affecter à cette opération-là, alors que le CNRS produit des climatologues extrêmement renommés. Il ne s'agit pas de dire que les échanges universitaires sont une mauvaise chose, mais on se situe vraiment dans une opération de com. Et comme c'était quand même une opération de com de plus en plus visible, Macron a commencé aussi un peu à réfléchir en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et qu'est-ce que fait un chef d'État quand il ne sait pas quoi faire. Il organise un sommet. Donc Macron a convoqué ce fameux sommet du 12 décembre dernier, donc pour marquer les 2 ans de l'adoption de l'accord de Paris, Climate Finance Summit, non bref, summit, enfin quelque chose, Climate Summit quelque chose.
Climate Grid Summit, c'est pas un truc comme
ça. Ouais, je sais plus. Ouais, ça alors. Bon.
On y est pas allé.
Et... sommet qui n'a débouché sur aucune annonce majeure, en fait. La seule chose qui a été faite par la France dans l'intervalle, c'est la fameuse loi Hulot qui porte sur le gel de l'exploration et de l'extraction des hydrocarbures, mais qui est une loi qui n'est faite que de demi-mesure, ce qui est un problème puisqu'elle est purement symbolique. L'extraction de pétrole et de gaz, on n'extrait plus de charbon sur le territoire français, mais de gaz et de pétrole ne représente qu'un pour cent de la consommation d'hydrocarbures en France. Donc on est vraiment dans de l'ordre du symbole. Après, les symboles en politique sont importants, mais pour que les symboles fonctionnent en politique, il faut qu'ils soient pleins et entiers et pas détricotés et qu'ils perdent leur substance. Or là, ce qu'ont fait Macron et Hugo, c'est accorder trop d'exemption à cette loi. Et donc, en fait... l'idée, la revendication qu'on a essayé de porter à ce moment-là, c'était de dire qu'il fallait geler l'extraction dès à présent. Et ce que le gouvernement s'est contenté de faire, c'est de geler en fait l'octroi de permis d'exploration. Il y a déjà 40 et quelques permis d'exploration qui sont en cours, et en vertu du fameux droit de suite, ils peuvent automatiquement, ou quasi automatiquement, donner lieu à une concession, ce qu'on appelle, donc c'est le nom officiel d'un permis d'extraction. Donc en fait, on est dans une loi qui est un effet d'affichage, très important d'affichage, hein, puisque la France est le premier État au monde à faire cela, mais en fait, qui n'a aucun impact et qui, du coup, vidé de sa substance, n'a pas d'effet d'entraînement. Donc on a le risque de la banalisation, en gros, c'est de rouvrir un cycle de grands discours, de postures, de tweets, du coup, en plus des discours et des postures, pour dire que oui, on prend très au sérieux la question du réchauffement climatique, mais derrière, sans agir à la hauteur de l'enjeu et sans vraiment prendre les mesures qui s'imposent. Une autre personne qui représente bien ça, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui ne manque pas une occasion de dire que Total a pris la mesure du problème que représente le réchauffement climatique et, en gros, instauré un peu l'idée que Total est l'anti-Exxon, ce qui n'est pas totalement faux dans la mesure où Total n'a pas financé autant de climato-sceptiques qu'Exxon, etc. Mais ce qui est totalement de la poudre aux yeux quand on regarde la part des énergies renouvelables des investissements de Total dans les énergies renouvelables dans le chiffre d'affaires, c'est je crois de l'ordre de 1% ou quelque chose comme ça. Donc on a au fond un retour à la situation qui était celle avant l'accord de Paris, où on s'est dit maintenant l'accord a été adopté, la main invisible du marché est devenue verte, donc en fait on n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à regarder le marché par miracle verdir l'économie et sauver le climat. Et puis bah, la troisième épreuve finalement c'est celle de la réalité, quoi, de l'urgence. Puisque chaque jour se confirme que les prévisions les plus pessimistes d'hier sont en fait en deçà de la réalité, que la réalité est pire que les prévisions les plus pessimistes d'hier. La dernière annonce en date, c'est celle qui concerne les courants de circulation océanique, dont le Gulf Stream est un élément, et dont le ralentissement est désormais avéré par une étude pluridisciplinaire qui montre que c'est à la fois une conséquence du réchauffement climatique, mais que ça va être aussi une conséquence puisque ces courants marins participent aussi lorsqu'ils fonctionnent bien à la captation de carbone et que ça peut entraîner alors des dérèglements climatiques pour le coup, puisque l'une des conséquences ça pourrait être d'avoir des hivers extrêmement froids en Europe. On voit aussi la multiplication des épisodes de sécheresse, des méga incendies, des tornades, des ouragans, etc. Donc la réalité elle est bien là. Et à tel point que se pose vraiment la question de savoir si il reste raisonnable ou honnête intellectuellement de dire que l'objectif des 1,5 degrés reste quelque chose d'atteignable. Est-ce que ce n'est pas devenu une chimère? Il y aura, si je ne dis pas de bêtises, c'est début octobre, mais c'est peut-être début novembre, le rapport du GIEC sur la question des 1,5 degrés, dans lequel le GIEC fera un point d'étape. Et il est assez probable que dans ce rapport, le GIEC continue à dire que c'est quelque chose qui est possible, à condition d'avoir recours à des technologies de type géo-ingénierie pour contrecarrer les effets du réchauffement. Donc on est vraiment plus que jamais sur la crête par rapport au 1,5 degré, en sachant, encore une fois, mais je pense que vous le savez, la différence entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement, ce n'est pas juste une discussion de type casuistique, quoi. Ça se compte en millions de vies humaines, et non humaines d'ailleurs, qui sont préservées ou pas. Donc disons que la situation est moins portée ou moins tournée vers l'optimisme qu'elle ne pouvait l'être il y a 2 ans et demi. Je pense qu'un signe de ça aussi, c'est la diffusion de plus en plus forte, en tout cas dans les milieux écolos avertis et militants, de toutes les théories et réflexions sur la question de l'effondrement, et qu'au fond, il y a toute une partie du mouvement écolo qui est en train de se dire peut-être que plutôt que de continuer à lutter contre les dérèglements climatiques, il faudrait plutôt qu'on se prépare à l'après. Et toute une partie des gens qui travaillent, qui s'organisent autour de ces questions, qui voient l'effondrement advenir, y compris à très brève échéance. Certains parlent de 3 années comme étant l'échéance la plus probable pour que ça arrive. Alors moi, je vais essayer quand même de montrer que tout n'est pas forcément perdu et que tout ne va pas nécessairement s'effondrer. Non pas par naïveté, mais parce que je pense que malgré ce constat un peu dramatique, il y a d'une part des bonnes nouvelles et des tendances qui sont assez intéressantes, et d'autre part, quelques stratégies qui permettent d'opérer des basculements à un horizon temporel assez bref. Alors, du côté des bonnes nouvelles, Eux, parmi les dernières en date, c'est la décision de la ville de New York de porter plainte contre 5 ou 6 compagnies pétrolières pour qu'elles payent pour les conséquences du dérèglement climatique sur la ville de New York. C'est quelque chose qui est notamment lié aux conséquences de l'ouragan Sandy, par exemple. Donc, la ville de New York est très vulnérable par sa géographie et par ses caractéristiques urbaines, très vulnérable aux conséquences du réchauffement climatique, à la fois les tempêtes, les ouragans, etc., et évidemment la montée des eaux. Et donc, le Bill de Blasio a décidé de porter plainte pour que ce ne soit pas la ville qui paye, mais les compagnies pétrolières. C'est pas un précédent, en fait. La ville de San Francisco a déjà lancé quelque chose d'équivalent, mais comme symboliquement, que ça vienne de New York, ça a une portée autre. Et ça, c'est intéressant parce que, d'une part, évidemment, le jour où le procès tiendra, la question du verdict va être déterminante. Et si, effectivement, les compagnies pétrolières sont condamnées à payer, ce sera un véritable séisme. Mais, d'une manière plus générale, ça participe de ce mouvement qui est de porter de plus en plus devant des tribunaux les compagnies pétrolières ou bien les États pour inaction. Et que ça contribue largement à faire tourner le vent, à la fois du côté des compagnies pétrolières qui commencent effectivement à réaliser qu'elles ne vont pas pouvoir continuer à agir impunément comme elles le faisaient auparavant, et puis du côté tout simplement des États qui commencent aussi à resserrer un peu la bride, et plus encore, alors ça peut paraître un peu secondaire, mais en tout cas du côté de 350, c'est quelque chose qu'on estime assez important, du côté des actionnaires qui vont se dire en fait c'est un investissement qui n'est pas rentable, contrairement à ce qu'on nous dit, qui est moins rentable qu'un livret A et que du coup un placement dans une centrale villageoise, parce que à terme, non seulement le jour où seront mises en œuvre des politiques climatiques ambitieuses, la valeur des actifs boursiers des compagnies pétrolières sera égale à zéro, tout simplement, puisque ce qui fait la richesse, enfin la valorisation boursière d'une entreprise comme Total ou comme Exxon, c'est pas un savoir-faire, c'est pas des oléoducs ou des gazoducs, c'est pas une flotte de vaisseaux, c'est pas des raffineries. Ce qui fait l'essentiel de leur valorisation boursière, c'est les gisements dont elles détiennent les titres d'exploitation. Parce que du coup, c'est un pari sur l'avenir. C'est l'idée qu'en détenant ces titres d'exploitation, on sait qu'elles vont pouvoir vendre tant de barils dans les prochaines années qui seront vendus à une moyenne de X dollars, donc elles vont rapporter tant. Et donc si évidemment on gèle l'extraction, tout ça est égal à zéro. Donc il y a premièrement ça. Et puis du coup, si elles sont condamnées, là aussi, en fait, les placements dans ces entreprises sont des placements qui deviennent des placements risqués, donc exposés à ce qu'on appelle la bulle carbone et aux actifs bloqués. Mais aussi, du coup, à terme, en tant qu'actionnaire, vous êtes finalement menacé aussi d'un procès, puisque si on attaque la compagnie, vous êtes libre en tant qu'actionnaire, et en tout cas, votre investissement perdra de l'intérêt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même aussi que... c'est quelque chose qui est à manier avec précaution, parce que ça pourrait être mobilisé comme une manière de dire « Regardez, effectivement, la main invisible des marchés est devenue verte et elle fonctionne. » Mais il y a un retournement complet dans les montants d'investissement dans les renouvelables par rapport aux fossiles. Donc la tendance est non seulement en chiffres bruts, mais en termes de kilowattheures installés, clairement du côté du développement des renouvelables, ce qui pose tout un tas de problèmes sur lesquels je reviendrai. Mais en tout cas, ce basculement est en train de s'opérer. Et de ce point de vue-là, on sait aussi que les choses peuvent... du côté des marchés financiers, les tendances sont extrêmement volatiles. L'exemple historique qui est souvent repris, c'est la composition du Dow Jones à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui a changé du tout au tout dans sa composition en une quinzaine d'années, passant de compagnies de chemin de fer, etc., à uniquement des compagnies pétrolières, une fois que les marchés se sont rendus compte que ça va être ça, l'investissement de l'avenir. Donc on peut imaginer quelque chose d'équivalent, ce qui pose tout un tas de problèmes, y compris évidemment en termes d'économie de marché, mais c'est plus là ce qui est intéressant, la tendance générale. Et puis il y a aussi toutes les luttes qui se développent, qui se renforcent et qui remportent même des victoires conséquentes sur le front du développement des infrastructures fossiles, et qu'il est devenu maintenant aussi difficile finalement de construire un oléoduc ou un gazoduc que de construire un aéroport, et que contrairement à la situation qui était dans laquelle on était il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, dès lors qu'une entreprise veut construire une infrastructure, qu'elle soit liée à l'extraction, à la combustion ou au transport de combustibles fossiles, elle fait face à une résistance de plus en plus forte, souvent, même si pas assez victorieuse, et qu'elle soit victorieuse ou pas, en tout cas qui freine le développement de ces infrastructures et qui les rend là aussi du coup, de moins en moins rentables.
Et du coup,
ouais, il me semble que ce qui est important, c'est précisément finalement de marcher un peu sur les trois, alors pas les trois pieds du coup, mais sur les trois axes qui se dessinent un peu de ce topo sur les bonnes nouvelles. Et d'un côté, la question des résistances, de l'autre, la question des alternatives, et comme faisant un peu le lien entre les deux, la question de la non-coopération. Du côté des résistances, c'est peut-être la chose qui est la plus évidente à saisir, c'est effectivement bloquer, faire barrage à tout projet destructeur du climat. Alors bloquer, faire barrage à tout projet destructeur du climat, c'est effectivement geler le développement d'infrastructures fossiles, par exemple. Mais ça peut être aussi, pour une collectivité locale, se déclarer hors zone zéro fossile. C'est-à-dire que, alors, en France, il faut voir si le front sera ouvert ou pas, mais disons que du temps où il y avait une vraie menace du côté du bassin de Montélimar, c'est vrai que la menace, elle plane ailleurs sur les gaz de schiste, elle continue à planer en Lorraine, dans le bassin parisien, et du côté de Lac, en tout cas, sur le permis de Montélimar, a priori, les choses sont plutôt réglées. Mais il y avait cette idée de dire que les collectivités locales, les communes qui sont concernées du coup, potentiellement par la fracturation hydraulique, peuvent interdire, alors si elles ne peuvent pas interdire directement l'emploi de la technique de la fracturation hydraulique ou le forage de leur sous-sol, elles peuvent interdire l'utilisation de l'eau communale par des entreprises pratiquant la fracturation hydraulique. Elles peuvent interdire la circulation des camions de plus de X tonnes dont les essieux sont plus larges de tant de mètres pour bloquer la circulation des camions qui vont amener le matériel qui va servir à construire les puits de forage. Donc il y a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser pour ce blocage. Et ce blocage, il est fondamental. Pourquoi ? Parce que on sait maintenant que les gisements de charbon, les gisements de gaz et de pétrole actuellement exploités, donc c'est ceux pour lesquels il y a une pompe, il y a un oléoduc ou un terminal métallier, etc. Au bout, donc c'est pas des gisements qu'on a identifiés et dans lesquels il n'y a pas encore de forage en cours. C'est vraiment ceux qui sont exploités et commercialisés sont tellement grands qu'ils suffisent à nous faire sortir de la trajectoire des 1,5 degrés. Si on rajoute les mines de charbon actuellement exploitées, on sort de la trajectoire des 2 degrés. Donc, en fait, si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, la première des choses à faire, c'est de ne pas mettre de nouveaux gisements en service. C'est la première des choses. Assez logique. Et puis ensuite, c'est planifier la fermeture des infrastructures existantes ou ce qu'on peut appeler la sénescence organisée de l'industrie fossile. Vous savez, la sénescence, c'est, il y a donc, évidemment de l'obsolescence qu'on connaît bien, cette idée d'obsolescence programmée. La sénescence, c'est la disparition lente et progressive d'un tissu jusqu'à... Le vieillissement lent et progressif d'un tissu jusqu'à sa disparition complète. Bah, c'est un peu ça qu'il faut faire avec l'industrie fossile. C'est pas son obsolescence, c'est-à-dire se dire on va rendre obsolète telle pièce ou tel bout d'oléoduc pour la remplacer par une pièce plus moderne, plus durable et moins polluante, mais bien les faire disparaître. Mais donc il faut commencer par geler le développement de tout nouveau gisement. Pour le dire autrement, en fait, toute mise en service d'une nouvelle mine de charbon, d'un nouveau gisement de pétrole, d'un nouveau champ de gaz contrevient aux objectifs de l'accord de Paris. Donc vous pouvez d'ailleurs aller vous enchaîner aux grilles d'un site sur lequel on prévoit de forer en disant que vous faites ça au nom du droit international, au nom d'un traité ratifié de manière au niveau global, et espérer et compter évidemment sur les mouvements qu'ils font pour qu'un jour un ou une juge déclare qu'effectivement cette action était certes illégale parce qu'il y a eu intrusion sur une propriété privée, mais que en fait elle était légitime et qu'elle, cette fameuse question de l'état de nécessité, au fond, entre deux entraves à la loi, quelle est la plus légitime des deux quand on n'a pas le choix. Donc ça, c'est la question de la résistance, qui, encore une fois, ne signifie pas nécessairement justement mettre son corps en première ligne. Il y a tout un tas d'autres leviers qui sont possibles. Il y a aussi, je pense qu'à Attac, en tout cas, on connaît bien ça. Faire barrage au traité de libre-échange, c'est aussi une manière de bloquer la destruction du climat parce qu'il contribue non seulement par construction à développer ou en libéralisant les échanges, ben, on augmente les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a plus de matières premières qui circulent d'un état à l'autre plutôt que de relocaliser la production. Et puis évidemment, il y a toutes les pressions ensuite pour que des hydrocarbures interdits en Europe puissent être commercialisés au nom de ces traités. Donc il y a tous ces leviers en termes de résistance, de blocage, pas une infrastructure de plus au fond. Ensuite, il y a donc la question de la non-coopération, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on se situe à l'interface entre le choix individuel et l'action sur les structures. C'est-à-dire que mon argent, votre argent et notre argent collectif, mais mon argent privé, votre argent privé et notre argent collectif contribuent à financer la destruction du climat. Si vous avez un compte en banque dans une banque classique qui n'est pas en gros la nef ou le crédit coopératif, vous contribuez à financer l'industrie fossile. Parce que votre banque va placer votre argent sur les marchés financiers ou va accorder des prêts à des entreprises fossiles. Et les Amis de la Terre avaient fait un calcul, alors qu'il faudrait refaire, mais qui est compliqué à faire, mais il y a une dizaine d'années, qui montrait que si vous avez 5000 euros qui sont sur un compte courant, même pas en actions ou obligations, 5000 euros sur un compte courant classique, au fond, ce que vous émettez en CO2 de manière indirecte par l'utilisation qui est faite par votre banque de cet argent, eh bien, c'est comme si vous faisiez un trajet quotidien entre votre domicile et votre travail avec un 4x4. Effectivement, on peut individuellement changer de banque, encore mieux, changer de banque en informant votre banquier ou votre bancaire, la raison pour laquelle vous changez de banque, et en demandant à votre agent de bancaire des comptes là-dessus. Hein, c'est notamment les Amis de la Terre qui font ça extrêmement bien, alors soit en organisant des actions dans les banques, soit en posant des lapins, aux banques, en prenant plein de rendez-vous et puis en annulant au dernier moment ces rendez-vous, puis en se rendant collectivement dans la banque en leur disant on a annulé le rendez-vous chez vous parce que vous financez tel projet climaticide, donc en grippant quoi, au fond le fonctionnement de ces banques. Mais il y a aussi notre argent collectif.
Juste quelque chose à propos de ça, les banques administrent du temps, vous mettez votre argent sur un livret d'épargne de développement ou des
choses comme ça. Je vais venir au livret du développement durable. Ouais. Justement, il y a notre argent collectif. Ça peut être l'argent qu'on va placer, nos cotisations sociales, nos cotisations de retraite, notamment les cotisations de retraite ou les impôts locaux, etc. En fait, tout cet argent-là est géré par la Caisse des dépôts et consignations. L'argent des universités est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Les caisses de retraite complémentaires de la fonction publique et le fonds de réserve pour les retraites.
Nationalisation des banques.
Oui, aussi. Est géré par la Caisse des dépôts et consignations qui place de l'argent, là aussi, dans l'industrie fossile et qui détient, alors on avait fait le calcul pour le fonds de réserve pour les retraites, le fonds de réserve pour les retraites détient plus d'un milliard d'euros d'actions et d'obligations liées à l'industrie fossile. C'est en gros un huitième de son portefeuille d'action, c'est la structure classique d'un portefeuille d'action. Et puis il y a du coup effectivement dans l'entre-deux, qui est l'argent privé mais géré et garanti publiquement, qui est le livret A et le livret du développement durable. Alors là c'est vraiment savoureux parce que le livret du développement durable et de l'économie sociale et de l'économie solidaire a été créé pour financer notamment des projets de rénovation thermique de bâtiments, donc pour consommer moins d'énergie. Mais en fait, il y a une partie qui est prêtée à ces types de projets, et puis il y a une partie qui est placée sur les marchés financiers pour garantir les prêts, où les prêts ne soient pas remboursés. En fait, cette partie-là qui est placée sur les marchés financiers, elle est placée de manière tout à fait classique. Donc le livret du développement durable, si vous avez de l'argent sur un livret du développement durable et un livret A, vous financez par exemple RWE, qui est l'opérateur des plus grosses centrales à charbon noir, donc l'Ignit, en Allemagne. Donc on voit bien là que d'une part, il y a un vrai problème, mais d'autre part, il y a des vrais leviers d'action aussi. Parce qu'on peut du coup demander à tous ces acteurs, qui sont en plus des acteurs publics, Caisse des dépôts et consignations, c'est quand même la Banque de l'État, qui est certes très autonome, mais au conseil d'administration et au conseil de surveillance de laquelle siègent des députés et des sénateurs, qui gèrent l'argent des collectivités locales. Donc le maire d'Arles peut très bien écrire à la Caisse des dépôts et consignations et dire on aimerait bien que notre argent serve à quelque chose d'autre. Donc il y a des leviers à ce niveau-là, et qui sont vraiment puissants parce qu'ils se situent à cette interface entre le choix individuel et l'action collective. Donc ça, c'est l'un des cœurs des campagnes que mène 350.org, et donc on s'apprête à lancer une grande campagne ciblant la Caisse des dépôts et consignations, avec plusieurs axes. Un axe université. Donc on va demander aux étudiants, aux étudiantes et au personnel universitaire de se mobiliser sur les campus pour que les présidences d'université acceptent au moins l'idée d'écrire à la Caisse des dépôts et consignations pour dire bon, on ne veut pas que notre argent serve à détruire le climat, mais même à aller plus loin, les contraindre à le faire. Les collectivités locales, donc autour toujours cette idée que les collectivités locales, en tant qu'employeurs, par exemple, contribuent du coup au financement du dérèglement climatique, puisque les caisses de retraite, encore une fois, de la fonction publique financent les entreprises fossiles. Et le troisième axe, c'est donc le livret A et le livret du développement durable, donc en lien avec ATTAC notamment, et probablement les syndicats de la Banque Postale, puisque c'est quand même la Banque Postale qui est le principal opérateur du livret A, demander à ce que ces livrets soient constitués comme un peu des placements exemplaires et n'investissent pas, alors je dis dans les fossiles, mais évidemment la revendication c'est ni fossiles ni nucléaires, pour investir dans les renouvelables. Donc ça c'est toute la partie qui va concerner la non-coopération, qui est au fond l'idée de dire pas en notre nom, et en l'occurrence pas avec notre argent, qui permet vraiment d'opérer des basculements assez importants. C'est notamment cette question du désinvestissement, c'était la tactique principale qui avait été utilisée pour renforcer et contribuer à la victoire du mouvement contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est évidemment aussi le mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions, qui a été lancé depuis la Palestine et en solidarité avec les luttes en Palestine. Donc non-coopération, au fond, c'est cette idée de se dire, certes, l'adversaire auquel on fait face est énorme, et moi, en tant qu'individu, je suis peut-être un peu perdu, un peu écrasé, je ne vois pas trop le sens de mes actions, et je vois bien qu'on me demande de cesser, de fermer mon robinet quand je me brosse les dents, mais enfin bon, on n'a jamais renversé, on n'a jamais changé un système en prenant des douches plus courtes ou en fermant un robinet. En fait, si on agrège des actions individuelles et qu'on les met dans un cadre collectif avec une stratégie coordonnée, on peut obtenir des victoires importantes. Mais pour ça, effectivement, il faut trouver le bon levier, la bonne stratégie et la bonne cible, d'où cette idée de l'argent, de tracer l'argent. Et puis, la troisième question, c'est celle des alternatives, qui est celle que je vais développer le moins, parce que je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Mais peut-être, du coup, justement, moi, je trouve que le slogan est excellent parce que, au fond, ce qui met en évidence, c'est que la question des alternatives, c'est d'abord pas la question des solutions. Si c'était d'abord la question des solutions, alors on pourrait dire, au fond, on va confier à des ingénieurs la question de savoir comment est-ce qu'on va substituer l'énergie nucléaire et l'énergie fossile à des sources d'énergie réellement durables. Mais du coup, si on se défausse, si on considère que c'est uniquement une question technique, en fait, on perd toute une partie de l'équation, et notamment aussi, on perd de vue le fait qu'il y a tout un tas d'acteurs privés qui parient sur le 100% renouvelable, mais qui le font sur un risque qui n'est pas du tout celui de la construction de sociétés justes. Ce que font Amazon, Google, Apple, Tesla et compagnie, c'est du 100% renouvelable. Dire, les locaux d'Apple, de Google et compagnie sont fournis en 100% renouvelable. Je crois que les usines d'Apple en Chine, à terme, seront aussi... l'idée d'Apple, c'est d'être exemplaire là-dessus, et donc de ne plus approvisionner, dans la mesure du possible, ces usines chinoises en charbon, mais d'avoir du renouvelable. On voit bien le problème. Alors certes, on a du renouvelable, mais d'une part, la question des droits sociaux, des personnes qui sont en bout de chaîne de production, est complètement occultée. Et puis nous aussi, en fin de chaîne, en fait, on n'est plus que des individus sans droit collectif, qui ne faisons non plus face à des États, mais à des grandes entreprises qui contrôlent nos vies. Et quand on nous, vous savez, il y a cet outil Amazon, vous ouvrez votre frigo, et Amazon sait que vous sortez votre boîte de ketchup, et donc sait à quel moment vous n'avez plus de ketchup, et peut vous envoyer automatiquement du ketchup si vous avez cliqué sur cette option sans que vous ayez rien à faire. Tout ça, c'est 100% renouvelable. Tout ça, ça fonctionne potentiellement avec des panneaux solaires, avec des éoliennes, etc. Donc en fait, la question, c'est pas celle des solutions, c'est celle des échelles. La question, et c'est pour ça que à portée de main est extrêmement important, c'est de retrouver des échelles, c'est de construire des cadres à des échelles dans lesquelles on peut reprendre le contrôle de ces questions-là. Donc c'est le cas de des initiatives de type centrale villageoise, c'est l'idée de dire, au fond, il faut s'organiser de telle sorte qu'on ne soit pas simplement en mesure de contrôler les grandes orientations, et de dire on ne veut pas d'EPR, on ne veut pas de nucléaire, on ne veut pas de fossiles, mais on veut des renouvelables, mais de peser aussi sur la taille des centrales. Enfin, en gros, en fait, ce qui pose problème avec la centrale nucléaire ou avec la centrale à charbon, c'est pas que le charbon et c'est pas que le nucléaire, c'est aussi la centrale et tout le mode de distribution et d'infrastructure de distribution d'électricité qui va avec. Donc, s'organiser pour peser à des échelles. Un bon exemple, c'est celui, enfin, pour le coup, qui a fait son chemin de la relocalisation de la production agricole. On voit bien que quand on s'inscrit à une AMAP, la tomate qu'on va avoir dans son assiette, ou le poireau, ou le chou rave en hiver, c'est pas uniquement une question gustative et une question de santé. C'est-à-dire qu'évidemment, on mange plus sainement et on a des fruits et des légumes qui sont de bien meilleure qualité. Mais c'est aussi notre relation qu'on va tisser entre la ville et l'environnement périurbain ou l'environnement rural, entre les consommateurs et les producteurs. Bah, c'est la même chose sur l'énergie, en fait. La question, c'est pas simplement de savoir si, oui ou non, cette ampoule halogène, en l'occurrence, j'imagine, est alimentée par la centrale du Tricastin ou de Cruas ou que sais-je, ou bien par une centrale à charbon, ou bien par un panneau solaire qui serait posé sur le toit. C'est pas uniquement ça. C'est quel type de relation on veut avec notre territoire, comment est-ce qu'on veut organiser notre territoire pour qu'on ait non seulement une production d'électricité qui soit durable, mais qui soit aussi juste dans le sens où eh bien, on maîtrise chaque étape de la chaîne. Alors évidemment, il y a une étape qui est distante, qui est celle de la fabrication de l'éolienne ou de la fabrication du panneau solaire qui fait appel à des métaux rares et qui est elle-même extrêmement polluante. Mais c'est précisément pour ça aussi qu'il faut se poser la question des échelles, parce que c'est là qu'on va pouvoir aussi agir sur la question des niveaux de consommation et essayer de trouver un peu de sobriété. On n'inventera pas des politiques de sobriété à l'échelle d'un État ou à l'échelle d'un continent. On les inventera au niveau local. Et une autre très bonne illustration de ce problème, c'est un bouquin que je vous recommande vivement la lecture qui s'appelle « Carbon Democracy », y compris en français, de Timothy Mitchell, qui est paru aux éditions La Découverte, et dans laquelle il fait une histoire du basculement du charbon au pétrole. Il s'arrête là. Mais en gros, il dit bah, le charbon avait des propriétés physiques très précises, c'est que d'une part, il est solide. D'autre part, il était extrait au moins au début à proximité des lieux dans lesquels il était consommé, enfin brûlé, donc en Angleterre. Et il était, à l'époque en tout cas, extrait sous terre. Et donc, en fait, il avait plusieurs points de vulnérabilité. Le premier point de vulnérabilité qu'il avait, c'était les mineurs, qui, étant dans la mine, échappaient au regard des contremaîtres et de la direction de la mine, et encore plus des usines, qui ne voulaient surtout pas descendre parce que c'était beaucoup trop dangereux. Et donc, les mineurs pouvaient s'organiser. Si les mineurs se mettaient en grève, bah, il n'y avait plus de charbon. Deuxième point de vulnérabilité, c'était le rail. Le transport du charbon entre la mine de charbon et l'usine se faisait évidemment par voie ferrée. Si les cheminots se mettaient en grève, eh ben les usines n'étaient plus alimentées. Donc, deuxième gros point de vulnérabilité. Et donc ça a permis la construction des compromis sociaux qu'on est en train de détruire actuellement sous Macron, qui ont été détruits sous Thatcher il y a une trentaine d'années. Donc il y a eu ce compromis social qui s'est construit en fait sous le régime du charbon. Il ne s'agit pas du tout d'un plaidoyer caché de ma part pour le charbon, c'est juste une manière d'illustrer le fait que la source d'énergie qu'on utilise, elle a aussi un impact sur la forme que prend la démocratie et que prennent les droits sociaux. Le passage au pétrole change pas mal de choses parce que, d'une part, le pétrole est quand même extrait dans des territoires relativement lointains. Il n'est pas du tout extrait là où il est consommé, là où il est brûlé. Il est liquide. Donc il y a beaucoup moins de manœuvres en fait, qui interviennent pour l'extraire, beaucoup plus de machines. Et donc la figure typique du pétrole, ça va être l'ingénieur et l'économiste, et puis ensuite le transport, mais du transport qui est beaucoup plus massif, qui se bloque beaucoup plus difficilement. Et donc en fait on perd dans le passage du charbon au pétrole un certain nombre de points de vulnérabilité qui se déplacent vers les marchés financiers, d'où l'insistance de 350 sur la question de la finance, pas du tout parce qu'on croit aux marchés financiers, bien au contraire, mais parce que c'est là qu'on estime être le point de vulnérabilité principal de l'industrie fossile. Donc Timothy Mitchell, en gros, s'arrête là. Mais on peut continuer son raisonnement et l'appliquer à la question des renouvelables. C'est-à-dire que les renouvelables ont encore moins de points de vulnérabilité que ne l'avait le pétrole, et évidemment moins que ne l'avait le charbon. Parce qu'en gros, une fois que vous avez construit votre panneau solaire et votre éolienne, vous n'allez pas vous mettre en grève pour bloquer le Mistral. Vous n'allez pas organiser une mobilisation pour que le soleil n'arrive plus sur le panneau solaire. On perd cette capacité à peser. Donc la seule manière de récupérer une capacité à contrôler la production d'énergie renouvelable, c'est cette question des échelles, c'est de s'organiser et de peser à des échelles dans lesquelles on ne se fait pas déposséder de notre pouvoir sur la production et sur la consommation d'électricité. Donc en gros, on a un triptyque, résistance, non-coopération, alternative, qui fonctionne un peu en miroir avec trois revendications clés, blocage ou interdiction de l'extraction, du transport, etc., des combustibles fossiles et du nucléaire, désinvestissement, arrêt des financements et des flux financiers envers cette industrie, et développement des alternatives, donc en prenant vraiment en compte la question de leur format, de qui les contrôle, et donc sans être, sans célébrer par exemple la création d'une méga ferme photovoltaïque qui exproprierait des petits paysans de leurs terres et qui ferait par exemple, je ne sais pas moi, si dans la plaine de la Croix on décide, je ne sais pas du tout si c'est le cas ou pas, mais j'imagine que c'est alors
l'audio,
voilà, des éoliennes, si on installe des éoliennes, une méga ferme éolienne dans la plaine de la Croix et que ça exproprie des petits producteurs agricoles, et ben ça veut dire que pour se nourrir localement sur Arles, ce sera de plus en plus compliqué, on aura un peu plus recours qu'avant, et on a déjà évidemment trop recours à ça, à des camions qui viendront nous apporter des fruits et légumes d'Espagne, et du coup on émettra moins de gaz à effet de serre parce qu'on aura des éoliennes, mais on en émettra plus parce qu'il y aura plus de camions qui viendront nous alimenter, donc en fait le jeu n'est pas, pas forcément à somme nulle, mais pas si intéressant que ça. Et puis peut-être, ça fait un bout de temps que je parle, donc je vais m'arrêter là, mais enfin quand même, on n'est pas dans un contexte complètement neutre ou vide socialement et politiquement en ce moment. Donc je pense que, d'une part, la question de la ZAD, c'est exactement celle-ci. C'est-à-dire que la ZAD, c'est... généralement, on cherche à construire des campagnes qui permettent de concilier à la fois résistance, non-coopération et alternative. C'est déjà extrêmement difficile. Et en gros, les campagnes qui ont réussi à concilier les trois sont celles qui ont obtenu des bouleversements majeurs dans l'histoire humaine. C'est la question de l'indépendance de l'Inde, c'est la question des droits civiques aux États-Unis, c'est la question de la lutte contre l'apartheid, etc. Mais c'est autour de campagnes qu'on le fait, quoi, généralement. Ou bien, à défaut, quand on n'arrive pas à trouver ça, on se dit on va plutôt construire une sorte de mouvement de mobilisation. Et donc, telle organisation va plutôt se centrer sur les alternatives, telle organisation va plutôt se centrer sur les résistances, et telle organisation plutôt sur la non-coopération. Et on va juste essayer de bien travailler ensemble. Et puis, évidemment, individuellement, c'est fluide et on passe de l'une à l'autre des mobilisations. Bah, la ZAD, en fait, c'est un territoire dans lequel on fait les trois à la fois. C'est-à-dire que quand vous buvez un café sur la ZAD, en fait, vous êtes en situation de résistance, vous êtes en situation de non-coopération et vous êtes en situation de construction d'alternatives. Les trois à la fois par le simple fait de respirer, de vivre sur ce territoire-là. Donc c'est aussi pour ça que malgré l'abandon du projet d'aéroport, le gouvernement cherche à mettre un terme à cette expérience parce qu'elle porte en elle un bouleversement beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. Donc ça, c'est peut-être la petite parenthèse sur la ZAD. Et puis après, bah, sur le reste des mobilisations sociales en cours, j'évoquais l'un des points de vulnérabilité du charbon comme étant le pouvoir que détiennent les cheminots. C'est pas pour rien qu'on s'attaque aux cheminots, parce que justement, ils sont, et elles sont, les acteurs et les actrices d'une bonne partie des compromis, des acquis sociaux, pardon, que nous avons réussi à obtenir par le passé. Et que donc s'attaquer aux cheminots, c'est bien... saper aussi la possibilité d'avoir des mobilisations qui fortes pour les défendre, pour défendre les derniers de ces acquis sociaux ou pour en gagner, espérons-le, d'autres quand le vent aura tourné. Donc c'est aussi une lutte qui est complètement indifférente à la question qui nous occupe, à la question du climat. Voilà.
Je retiens le on a 3 ans.
Moi je suis pas d'accord avec ça.
Bon. Après je suis dans la résistance, je veux dire ça me fait pas peur, mais 3 ans ça me paraît quand même court. Voilà, au vu.
Alors moi je veux bien développer sur la question de l'effondrement, c'est un.
Pour moi l'effondrement, après c'est un anglais qui disait ça, c'est mon anglais qui dit c'est pas la peine d'essayer. Si le réchauffement climatique est engagé. Peut-être que c'est pas la peine d'essayer de survivre. En gros, il faut tout faire pour pas que ça arrive, parce qu'après, on enclenche quelque chose qui va être un peu difficile à... On n'arrive pas à le modéliser, on sait pas ce que ça va donner. Donc il disait, faisons tout pour pas qu'on en arrive là.
Alors, la question de l'effondrement, elle est... Enfin, déjà, je trouve le premier problème, en fait, avec... Et c'est pas tant une. Enfin, vous avez peut-être lu le bouquin de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, petit traité de collapsologie à l'usage, je ne sais plus. Qui, eux, développent une lecture très. très comment dire très très empathique ou très très humaine et très chaleureuse de cette question d'effondrement avec énormément de soins et de qui débouche pas du tout sur une vision d'effondrement où on serait en concurrence les uns avec les autres. Pablo Servigne a même publié depuis un autre bouquin qui s'appelle L'entraide, d'autres lois de la jungle, dans laquelle il montre que au fond la ressource la plus utile en situation de crise c'est l'entraide et pas du tout la concurrence, parce que la concurrence elle épuise tout le monde, y compris en fait les plus forts, et que du coup seuls les plus forts peuvent se le permettre, et qu'il y a tout un tas d'exemples dans la nature et puis évidemment dans les sociétés humaines de situations de crise dans lesquelles les gens s'entraident, et que après Katrina à la Nouvelle-Orléans, en fait, il n'y a pas eu de scène de pillage, c'est faux. Même l'armée américaine l'a reconnu après coup, mais c'était trop tard. On a parlé quand il y a eu dans la Caraïbe, comment s'appelait ce cyclone, la tempête là, en septembre dernier. Pardon, j'ai un trou de mémoire. On a beaucoup parlé de pillage, mais en fait, c'est quasiment pas vrai. C'est des épiphénomènes. Il y a eu très peu de pillage, et les seuls pillages qu'il y a eu, c'était pour récupérer de l'eau potable ou ce genre de choses. Mais en fait, la première attitude dans ces situations-là, c'est effectivement l'entraide. Donc, c'est pas une attaque contre eux, mais le premier problème qu'il y a avec l'effondrement, c'est que c'est quand même une pensée qui est extrêmement située, parce que l'effondrement, il a déjà eu lieu et il est déjà en cours dans plein d'endroits de la Terre. Historiquement, c'est évidemment le cas avec la colonisation des Amériques. 90% de la population qui disparaît, pas d'un coup d'un seul, mais en l'espace de quelques décennies, sous l'effet de la violence, des maladies, etc. C'est une forme d'effondrement. Et donc on peut regarder aussi ce qui s'est passé en termes de résistance pour comprendre comment s'organiser face à l'effondrement plutôt que de penser à l'après. C'est aussi le cas dans les îles du Pacifique Sud, au Bangladesh et dans de nombreux pays africains. C'est pareil, l'effondrement est en cours. Donc si l'effondrement doit signifier quelque chose, c'est pas comme quelque chose qui arrivera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Et d'ailleurs, rien ne permet en fait de dire qu'il arrivera dans 3 ans. Pablo Servigne dit qu'il arrivera dans 3 ans parce que sa conviction, c'est que la crise économique va aller en s'amplifiant et qu'à un moment donné, ça va déboucher sur une catastrophe nucléaire, et que du coup, la catastrophe nucléaire signifie, évidemment, tout ce que l'on sait en termes de conséquences. Mais ce sont des hypothèses. Alors c'est le principe, c'est des hypothèses. Si je vous dis que l'effondrement va avoir lieu dans 3 ans et qu'en fait dans 5 ans il n'a toujours pas eu lieu, on peut revenir et me dire mais oui, mais il approche de plus en plus, j'ai bien raison. Et c'est vrai, évidemment c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est... Mais donc il a eu lieu. L'autre très bon exemple, je trouve, de groupe qui a fait face à l'effondrement et qui s'est organisé face à l'effondrement, c'est la communauté homosexuelle au moment du sida. Vous avez quand même une situation dans laquelle jusqu'à les deux tiers des homosexuels qui sont morts du sida et qui voyaient leurs proches tomber comme des mouches, qui tombaient comme des mouches non pas parce que c'était la fatalité, non pas parce qu'ils ne se protégeaient pas ou ne savaient pas comment agir, mais parce que les laboratoires pharmaceutiques considéraient que c'était pas un problème suffisamment intéressant à prendre en charge, et qui sont organisés à la fois pour prendre soin les uns des autres, et notamment des malades, accompagner les malades dans leurs dernières étapes, et en même temps contraindre les laboratoires pharmaceutiques et la puissance publique à agir, ce qui fait que maintenant, en tout cas dans les pays du Nord, disons, quand on est malade du sida, on ne meurt plus du sida, et on peut avoir une vie relativement proche de ce qu'est une vie normale, pour peu qu'on prenne les médicaments qui sont en circulation sur le marché et qu'ils soient remboursés, parce qu'évidemment c'est des traitements qui sont très chers. Alors que dans le cas d'ACT UP New York, qui est le premier des ACT UP, Larry Kramer, qui était le fondateur d'ACT UP, dans les toutes premières assemblées générales d'ACT UP, disait à la salle, deux personnes sur trois, levez-vous. Deux personnes sur trois se levaient et puis leur disaient, vous, dans 8 mois, vous êtes morte. Donc c'était une vraie situation d'effondrement face à une vraie urgence. Et là, on ne parle pas de 3 ans. Non. Évidemment, il y a eu un prix en termes de vie humaine qui est absolument faramineux, de vie détruite, y compris pour les personnes qui ont survécu, évidemment. Mais on a un bon exemple de capacité à enrayer quelque chose qui semblait inéluctable à ce moment-là. Donc il y a tout un tas d'exemples. Et puis, autre exemple aussi, c'est une pensée qui est quand même très située, y compris dans certains milieux sociaux, parce que moi je pense, que pour la famille d'Adama Traoré, l'effondrement il est déjà en cours, parce qu'en gros, une des caractéristiques de l'effondrement, c'est que les institutions ne jouent plus leur rôle protecteur et de pourvoyeur, non seulement de redistribution, mais de protection. Voilà. Vous habitez à Beaumont-sur-Oise, vous êtes la sœur ou le frère d'Adama Traoré, franchement, les institutions, l'expérience que vous avez des institutions, c'est uniquement de la violence, de la répression, du meurtre, et de l'emprisonnement. Donc il y a tout un tas de situations dans lesquelles en fait cette chose, enfin, l'effondrement est déjà en cours. Donc je pense qu'en fait la question c'est pas de se poser, enfin la question vraiment intéressante c'est pas de se dire est-ce que l'effondrement va arriver ou quand il va arriver, mais comment est-ce qu'on peut s'organiser, quelles sont les stratégies qui sont à notre disposition pour veiller, pour faire en sorte qu'il n'arrive pas, en sachant que même s'il parvient, tout ce dont on parle, toutes ces formes d'organisation et d'appropriation des échelles, etc., c'est des choses qui seront utiles si l'effondrement advient. Parce que du coup, on aura déjà des tissus d'organisation qui seront en place, d'entraide, de soins, etc., qui seront utiles dans ce cas-là, plutôt que d'être un peu paniqué en se disant oh, « qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je dois m'inscrire à un stage de survie? Est-ce que je dois acheter un fusil à apprendre à chasser? Est-ce que je dois… voilà. » Et je trouve en plus que les stages de survie et compagnie sont, je crois, à 80% composés d'hommes blancs comme moi. Enfin, c'est aussi un truc de mec, quoi, cette perspective de l'effondrement.